Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble Ésaïe chapitre 60. Mais avant de le faire, j'aimerais faire un bref retour au chapitre 59. Dans ce chapitre, le prophète Ésaïe parle des crimes de Juda, de son jugement. C'est un retour historique sur les raisons pour lesquelles Dieu a dû intervenir auprès de ce peuple qui a mené finalement à l'exil. Et nous avons vu tout le processus, en fait, par lequel ce peuple passe, et nous avons vu qu'il s'agit effectivement du même processus qui mène au salut reçu par la foi aujourd'hui. D'abord, la réalité objective, on est séparé de Dieu par nos péchés. Deuxièmement, les gens sont conscients des effets, des conséquences de ce péché dans la société. Mais il faut qu'ils arrivent à un stade, troisième point, où ils reconnaissent leur propre péché et que cela les amène à la repentance, à revoir leur propre culpabilité, leur propre responsabilité. Ensuite, il faut que cela mène à une prise de conscience que Dieu va juger tout le monde, que l'on peut être perdu. Et enfin, après avoir vu cela, si on veut être sauvé, on se tourne vers Dieu, c'est la seule issue possible. Et nous avons vu, nous savons bien que dans le Nouveau Testament, il s'agit de la mort et de la résurrection de Jésus qui ouvre la voie à la grâce de Dieu, au pardon, à la réconciliation. Donc Israël est passé par ces étapes. Chaque être humain qui veut être réconcilié avec Dieu doit passer par ces mêmes étapes. Mais après, qu'est-ce qui se passe après ? C'est à ce moment-là que dans les derniers chapitres de son livre, Ésaïe évoque bien sûr le retour du peuple d'Israël de son exil à Babylone, mais il voit beaucoup plus loin que cela. Le chapitre 60 dans ma Bible porte comme titre « La gloire future de Jérusalem ». Mais en réalité, tout au long de l'histoire, on ne peut pas dire que cette gloire ressemble tout à fait à cette image brossée au chapitre 60 du prophète Ésaïe. Ni dans les siècles qui ont suivi Ésaïe, ni dans les siècles qui ont suivi Jésus, même aujourd'hui, la ville de Jérusalem n'est pas un lieu aussi glorieux que cela. Il y a des conflits, il y a des divisions entre peuples au sein même de la ville. Non, Jérusalem représente bien autre chose. Nous l'avons vu lors de notre culte dimanche dernier, quand j'ai abordé le psaume 46, le psaume 46. Où, au milieu de ce psaume, on parle de la ville de Dieu. Les bras d'un fleuve réjouissent la vue de Dieu, c'est la demeure du Très-Haut. Nous avons vu que cette ville ne sera pas ébranlée, alors que les nations vont être ébranlées, que la nature sera même ébranlée, mais que Jérusalem ne le sera pas, parce que Dieu est au milieu d'elle. Quand nous voyons dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, toutes les références, toutes les allusions à Jérusalem, on comprend en fait qu'il s'agit de tout autre chose. Jérusalem représente en fait le lieu où Dieu demeure sur terre. Jérusalem représente en fait le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Déjà dans l'Épître aux Hébreux, il est clair au chapitre 12, et les versets 22 jusqu'à 24, que cette nouvelle Jérusalem, c'est tout autre chose que Sion. Les versets précédents parlent de Sinaï, où la loi a été donnée. À Sion, au contraire, verset 22, Hébreux 12, 22, au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et de ses dizaines de milliers d'anges. En fait, vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous. des esprits des justes parvenus à la perfection, bon, c'est nous, hein, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Donc nous sommes approchés de de Dieu, c'est cette nouvelle Jérusalem où sont les justes parvenus à la perfection, des justes parce que justifiés, on parle de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Et cette nouvelle Jérusalem, nous le lisons maintenant dans Apocalypse chapitre 21, cette nouvelle Jérusalem va descendre du ciel sur la terre. Parce que Ésaïe et d'autres auteurs de la Bible, Ésaïe en particulier au chapitre 65, parle de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et voilà que nous lisons dans Apocalypse chapitre 21, « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. » Et dans cette nouvelle Jérusalem, tout sera différent. Verset 4. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Quand nous passons un peu plus loin dans ce chapitre 21, nous avons une description de cette nouvelle ville, et je vais la lire. C'est Apocalypse 21, 22 à 27. Pourquoi lire tous ces versets? Parce qu'en fait, la plupart des choses dans ces versets sont tirées de ce chapitre 60 d'Ésaïe que nous allons regarder ensemble maintenant. Mais d'abord, je lis donc, et vous allez voir toutes les allusions tout au long de notre lecture d'Ésaïe 60. « Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Alors revenons à Ésaïe chapitre 60, et je vais le lire un peu strophe par strophe, et en faire quelques commentaires. C'est tellement riche que l'on pourrait passer longtemps dans ce seul chapitre d'Ésaïe, mais on va effleurer les éléments principaux pour avoir une vue d'ensemble de cette gloire future de Jérusalem qui est en fait la gloire du peuple de Dieu sur terre, cette terre complètement renouvelée à la fin du monde, et cette terre qui sera notre demeure est dans ce sens la demeure de Dieu sur cette terre pendant l'éternité. Alors lisons d'abord les versets 1 à 3. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi l'Éternel se lèvera, sur toi sa gloire apparaîtra. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. » Donc Jérusalem va se lever et brillera, mais attention, ce sera seulement une gloire reflétée, sera la gloire de l'Éternel. C'est la gloire de l'Éternel qui se lève sur Jérusalem. Et sur la terre, il y a toujours les ténèbres, mais une lumière qui se lève, la lumière de l'Éternel. Calvin aurait dit que l'univers et l'histoire sont le théâtre de la gloire de Dieu, dès maintenant. Et en chassant cette obscurité, nous revenons à notre vraie raison d'exister, qui est de glorifier Dieu. Même on dit que les nations marcheront à sa lumière. Nous avons déjà vu cela dans Apocalypse 21. Ce salut sera accessible au monde entier et les rois de la terre y apporteront leur gloire. En ce moment, c'est l'obscurité, mais cette obscurité sera chassée. Versets 4 à 7. Lève tes yeux et regarde autour de toi. Ils se rassemblent tous. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées dans les bras. En le voyant, tu rayonneras de joie. Ton cœur bondira, se dilatera, car les richesses de la mer se tourneront vers toi. Les ressources des nations viendront chez toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de tout jeunes dromadaires venus de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, porteurs d'or et d'encens. Ils annonceront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar seront tous réunis chez toi. Les béliers de Nabajoth serviront à ton culte. Ils seront offerts en holocauste sur mon autel, et je les accepterai. J'illuminerai le temple de ma splendeur. Dans un sens, on retrouve le thème du retour des exilés. Ces fils et ces filles qui viennent de loin, et c'est vrai qu'ils sont arrivés avec beaucoup d'argent et d'or. Hein. Nous l'avons lu dans Néhémie et Esdras. Ils sont revenus de Babylone chargés de richesses. Mais Ésaïe va beaucoup, beaucoup loin que cela. Et la fin la fin du verset Apocalypse 21-24 nous permet de voir une application future pour nous. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Qu'est-ce qui va rentrer dans cette nouvelle Jérusalem? Dans quelle mesure faut-il prendre tout cela au pied de la lettre? Bon, ça fait débat entre les chrétiens depuis longtemps. Que retrouverons-nous dans la nouvelle création? Qu'est-ce qui sera là de la création humaine? Est-ce qu'il y aura la musique? Est-ce qu'il y aura la musique de Bach, par exemple? Quel aménagement de ce monde actuel retrouverons-nous dans cette terre recréée, en quelque sorte? Je connais un théologien qui pense que nous retrouverons la viaduc de Milo, par exemple. Et c'est vrai que dans Apocalypse 21-26, on dit « On y apportera la gloire et l'honneur des nations ». En tout cas, ce qui est vrai, c'est que, au verset 5, « En voyant cela, Jérusalem rayonnera de joie ». Son cœur bondira, se dilatera, parce que on va voir que toute l'histoire sert à quelque chose, il y a un aboutissement où Dieu n'a pas délaissé notre monde, et s'il nous a sauvés individuellement par la foi, parce que c'est par la foi que nous sommes justifiés individuellement, son peuple forme un tout, et ce peuple habitera la création de Dieu qui n'a pas été créée pour rien. Et quel est l'aboutissement de l'aboutissement, si je peux dire cela? C'est au verset 6 d'Ésaïe 60, ils annonceront les louanges de l'Éternel. Certaines parties, c'est dit dans le vocabulaire de l'Ancien Testament, tous les béliers qui seront réunis pour être offerts en holocauste sur son autel, que Dieu acceptera. Bon. Nous savons que maintenant on n'a plus besoin de sacrifice parce que le sacrifice suprême de Jésus a été offert. Mais le fond de la pensée, c'est que nous annoncerons les louanges de l'Éternel. C'est ça qui sera notre principale occupation pendant toute l'éternité. Ça ne veut pas dire que l'on va passer notre temps à chanter parce que déjà sur la terre, nous pouvons louer le Seigneur en pensant à sa bonté, en admirant les beautés de cette terre, en voyant la beauté des relations entre chrétiens au sein d'une communauté, nous pouvons le glorifier dans tout ce que l'on fait, du matin jusqu'au soir. Mais finalement, notre motivation profonde de la vie, ce n'est pas notre plaisir, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la réussite personnelle, ce n'est pas notre nom, c'est le nom de l'Éternel qui sera glorifié. Comme nous le prions dans notre Père, que ton nom soit sanctifié, honoré, respecté par tous. Passons donc au verset 8, verset 8 à 12. Qui sont ces hommes qui volent comme un nuage, comme des colombes vers leurs pigeonniers? C'est que les îles placent leur attente en moi, et les bateaux lancouriers sont en tête pour ramener tes enfants de loin. Ils apportent leur argent et leur or en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, en l'honneur du Saint d'Israël, parce qu'il t'a accordé la splendeur. Tes étrangers reconstruiront tes murailles, et leurs rois te serviront, car dans mon irritation je t'avais frappé, mais dans ma grâce j'ai compassion de toi. Tes portes seront constamment ouvertes, elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, pour laisser entrer chez toi les ressources des nations, ainsi que leur roi en cortège. En effet, la nation et le royaume qui ne te seront pas asservis disparaîtront. Ces nations-là seront totalement ruinées. Qu'est-ce qu'on voit dans ces versets? On vient de loin vers cette Jérusalem. On parle des vaisseaux lancouriers, littéralement les vaisseaux de Tarsis. Normalement, on situe Tarsis en Espagne. On parle des îles, donc toutes les îles de la Méditerranée. À cette époque-là, ces îles, l'Espagne était loin, des centaines de kilomètres pour venir à Jérusalem. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est toutes les nations de la terre qui sont acceptées dans cette nouvelle Jérusalem. Et un des textes les plus cités, qui nous touche chaque fois qu'on le lit, c'est dans Apocalypse 5 et le verset 9. Quand on voit que Jésus est digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car, Apocalypse 5, 9, tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, ces personnes-là, nous tous, qui sont parmi ce nombre, nous serons là, c'est l'extension du royaume de Dieu qui a commencé le jour de la Pentecôte, où chaque personne présente, venue de tout le bassin méditerranéen et des pays du Moyen-Orient, ont entendu l'évangile concernant Jésus dans leur propre langue. Donc tout ce monde-là contribuant à reconstruire en quelque sorte Jérusalem, c'est Dieu qui est à l'œuvre pour former cette demeure pour lui, à sa gloire, nous, en tant que chrétiens sur la terre. En revanche, les puissances humaines qui semblent si puissantes aujourd'hui disparaîtront. Le monde que l'on peut définir dans le Nouveau Testament comme étant tout ce que les hommes cherchent à construire par leur propre force sans Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, plusieurs peuples ont dit des choses comme « Moi, il n'y a rien que moi » ou « Mon Dieu à moi, c'est ma force ». Donc, le monde entier viendra, au moins ceux qui veulent être réconciliés avec Dieu, le monde entier viendra pour se joindre au peuple juif, pour louer le Seigneur. Verset 13, de 13 à 16. Ce qui fait la gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, pour donner de la splendeur à l'emplacement de mon sanctuaire, et j'honorerai l'endroit où je me tiens. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Toi qui étais abandonné et détesté, toi que personne ne traversait plus, je ferai de toi un ornement éternel, un sujet de joie de génération en génération. tu te nourriras du lait des nations, tu te rassasieras des richesses des rois, tu sauras que c'est moi qui suis l'Éternel, ton sauveur, celui qui te rachète, le Dieu puissant de Jacob. » Donc nous voyons de nouveau que ce que les nations vont apporter, par exemple le bois du Liban, réputé d'ailleurs, pour la construction du temple. Et nous voyons que les descendants de ceux qui t'humiliaient viendront se courber devant toi. Tout le monde reconnaîtra cette nouvelle réalité. Ils n'auront pas le choix d'ailleurs. Et Philippiens 2, verset 10, qui est l'aboutissement de tout ce chapitre qui parle de l'humiliation et de la gloire de notre Seigneur Jésus, se termine avec les mots « Au nom de Jésus, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'ajouterai de gré ou de force. Pour ceux que le Seigneur a rachetés, ce sera volontairement parce que nous allons reconnaître que c'est là la vraie réalité. La vraie réalité. » Certes, au verset 14, les fils de tes oppresseurs, ceux qui te méprisaient, viendront faire cela. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens regardent les églises, ils peuvent penser qu'on n'est rien du tout, on n'a pas beaucoup de puissance. Certains vont penser que nous sommes une relique du passé, mais en réalité, c'est nous, en tant que chrétiens, qui formerons devant le Seigneur ce nouveau peuple, cette nouvelle humanité. Et le vocabulaire du verset 16 est très riche, parce que si le mot « racheter » veut dire « délivrer », et dans l'Ancien Testament, il était utilisé pour la délivrance de l'Égypte, par exemple. Pour nous, quand on lit « C'est moi qui suis l'Éternel, ton Sauveur, celui qui te rachète », pour nous qui lisons cela aujourd'hui, avec notre connaissance de Jésus, tout cela prend son relief dans le Nouveau Testament. C'est vrai que Jésus est notre Sauveur, celui qui nous rachète. Et c'est pour cela que nous sommes membres de cette nouvelle Jérusalem. Et finalement, la joie durera de génération en génération, c'est-à-dire pour toujours. Tout cela sera un sujet de joie de génération en génération. Verset 15. C'est peut-être pour cela qu'un mot qui revient très souvent dans le Nouveau Testament, c'est la joie, 80 fois, et se réjouir 60 fois. Nous pouvons vraiment nous réjouir malgré notre situation, ou sur terre, pour revenir à ce verset 14, il y a des gens qui peuvent être des oppresseurs, des moqueurs qui nous méprisent, mais en fait, ce n'est pas nous qui méprisent, c'est le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui est notre Sauveur et qui nous a rachetés. Verset 17 au verset 20. « Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze. Au lieu des pierres, du fer. Je désignerai la paix pour te surveiller et la justice pour dominer sur toi. Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction, ni de malheur sur tout ton territoire. Et tu rappelleras tes murailles, salut, et tes portes, louange. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit, mais c'est l'Éternel qui sera ta lumière éternelle. C'est ton Dieu qui fera ta splendeur. Ton soleil ne se couchera plus, ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière pour toujours, et ta période de deuil sera terminée. » Forcément, vu l'histoire de la ville de Jérusalem que j'ai évoquée au début de ce message, cela ne se réalisera qu'au moment de la nouvelle création. Et vous avez remarqué au passage de nombreuses allusions à ce texte de la fin de l'Apocalypse que j'ai lu il y a quelques minutes. La source de la lumière sera l'Éternel et l'agneau. Apocalypse 21, 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, que la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et de nouveau au chapitre 22 et le verset 5. Il n'y aura plus de nuit, il n'aura besoin ni de lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Donc, ils régneront dans un sens avec le Seigneur. Donc, tout cela, on peut déjà commencer à vivre maintenant. Parce que Jésus a dit qu'il est la lumière du monde, et celui qui le suit ne marcherait pas dans les ténèbres. Ça, c'est dans Jean 8 et le verset 12. Donc, dès maintenant, nous pouvons commencer à vivre toutes ces choses, mais la réalisation totale est devant nous. Nous ne savons pas si nous allons le vivre avant notre mort ou après notre mort. On ne connaît pas la date où Dieu décidera de mettre fin au monde actuel. Mais il y aura une fin. Et à ce moment-là, nous allons vivre pleinement ces versets, ces termes que nous employons déjà sous la terre. Nous vivrons dans la paix et la justice. Le verset 17, « Je désignerai la paix pour te surveiller et la justice pour dominer sur toi. » C'est presque inimaginable, parce qu'il n'y a jamais eu la paix sur la terre. Et même quand il n'y a pas de guerre entre les nations, parfois c'est la guerre au sein d'un couple, au sein d'une famille. En ce moment, pendant le confinement, on parle de violence dans les foyers, par exemple. Les violences dans le monde des affaires, des violences dans les quartiers. Nous connaîtrons un jour une paix totale. Il n'y aura plus de violence dans le pays. Verset 18, il ne sera plus jamais question de violence, ni de destruction et de malheur. Car tu appelleras les murailles le salut. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on lit un mot comme le salut, nous le lisons avec toute la richesse du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Ce salut accompli par Jésus. Et n'oublions pas, au passage, que déjà, dans Ésaïe, il parle du serviteur, dans plusieurs textes, ce serviteur qui accomplit ce salut, notamment ce célèbre chapitre 53. Et l'aboutissement, c'est au verset 18, « Tes portes s'appelleront louanges ». Nous l'avons déjà vu au verset 6, « Nous annoncerons les louanges de l'Éternel, notre raison d'être, selon Apocalypse 22:3, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs lui rendront un culte. » Donc voilà, nous serons pleinement épanouis parce que nous vivrons pleinement selon la raison pour laquelle nous avons été créés, pour servir à la gloire de Dieu. Terminons donc avec les deux derniers versets de ce chapitre. Ton peuple ne sera plus composé que de justes, et ils hériteront pour toujours de la terre. Eux, le rejeton planté par moi, le produit de mes mains destiné à manifester ma splendeur. Le plus petit se transformera en millier, le plus insignifiant en nation puissante. Et c'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela très vite au moment voulu. Qui va avoir accès à cette gloire future, à cette Jérusalem céleste qui descend sur la terre? Alors le verset 21 dit, « Ton peuple ne sera plus composé que de justes. » Ça nous fait penser de nouveau à l'Apocalypse, chapitre 21 et le verset 27. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Donc, nous pourrons y entrer en tant que juste parce que nous cherchons certes à plaire au Seigneur, mais surtout juste parce que déclaré juste par le sang versé de Jésus qui a payé à notre place la condamnation que nous méritons. Mais attention aussi au dernier mot de ce chapitre. On ne connaît pas à quel moment cela arrivera. J'aime beaucoup la traduction dans la Bible en français courant. « Je me dépêcherai de faire cela quand le moment sera venu. En attendant, nous devons rester dans une attitude d'attente patiente, mais au moment où Dieu décidera, au moment voulu, Dieu fera venir cela subitement. Je me dépêcherai de le faire quand le moment sera venu. Vivons donc dans cette attente, vivons donc dans la joie que quoi qu'il nous arrive, une gloire future nous attend, le mieux est toujours devant nous. Nous pouvons souffrir un peu sur cette terre, certains frères et sœurs plus que nous certainement, mais nous connaîtrons un moment de joie, comme nous l'avons lu, éternel, où nous pourrons nous donner tout entier à la gloire de Dieu et profiter pleinement d'un moment de paix sur la terre où nous allons pouvoir le découvrir dans toute la richesse que le Seigneur y inscrira et nous serons parfaitement dans la joie parce que Dieu essuiera toute larme. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Parce que, là je viens de lire Apocalypse 21, verset 4, parce que, verset 3, le tabernacle de Dieu est parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Que le Seigneur nous donne de nous réjouir de cette espérance future. Dans encore espérance, un mot qui revient, je pense, 60 fois dans le Nouveau Testament, nous avons une vraie espérance. Et des chapitres tels que Ésaïe 60 doivent alimenter cette espérance en nous à la gloire de Dieu. Amen.